autour de deux grands moments qui ont marqué des questionnements sur la démocratie, comment conquérir la démocratie, comment la reconquérir, comment la défendre, à savoir ce qu'on a appelé les révolutions arabes, on pourra peut-être revenir sur le terme, et le mouvement des indignés. Donc on est très content ce soir d'accueillir Samir Amin, qui va donc nous parler de ce printemps arabe. Samir Amin est un ancien professeur d'économie politique, il a même enseigné à Poitiers. Il est actuellement directeur du Forum du Tiers-Monde. Alors je ne vais pas citer toutes ses publications qui sont beaucoup trop nombreuses, sinon on n'aurait fait que ça à faire pour le débat. Mais peut-être vous signaler sa dernière publication, « Le monde arabe dans la longue durée, le printemps arabe, 2011 ». Je vous conseille ce livre qui apporte des éclairages tout à fait importants sur cette question. Et à ma droite, José Luis Moreno Pestaña, maître de conférence de philosophie à l'Université de Cadiz, qui est connu en France principalement pour ses travaux sur l'œuvre de Michel Foucault, mais qui va intervenir ici en tant qu'il a rejoint le mouvement des indignés à Cadiz et à Séville ensuite. Vous pouvez également trouver sur Internet un article qu'il a publié sur nonfiction.fr et qui s'intitule « La philosophie en acte, entretien au sujet des indignés espagnols ». Je ne vais pas en dire plus, je vais leur laisser la parole pour chacun 30 minutes avant de laisser du temps pour le débat avec vous.
Oui, bonsoir et merci. Je ne veux pas être trop long. Je veux tout de même remercier les responsables de ces journées Raison d'agir et de l'invitation qu'ils m'ont adressée. Merci. Bon. Pour comprendre les mouvements de révolte, c'est plus que de protestation, mais ce n'est pas encore, ou ce n'est pas une révolution ou des révolutions, dans un certain nombre de pays du monde arabe contemporain, je crois qu'il faut savoir que ces révoltes étaient attendues, tout au moins par les intellectuels de la gauche arabe dans les pays concernés, et qu'il y avait des indices comme les très grandes grèves ouvrières, celle de Gafsa en Tunisie, celle d'Égypte de 2007-2008, des mouvements de résistance grandissant des paysans aux expropriations accélérées, et même des mouvements nouveaux dans les classes moyennes démocratiques, comme le mouvement Kefaya en Égypte, qui annoncer cette révolte certaine. Elle a néanmoins surpris, non seulement surpris les régimes en place, Ben Ali et Moubarak en l'occurrence, pour la Tunisie et l'Égypte, mais elle a même surpris les chancelleries occidentales, y compris la CIA. Ils en ont tiré les leçons par la suite, comme je le dirai tout à l'heure. Pourquoi ces révoltes aurait dû être attendu par tout le monde. Il faut savoir que au cours des décennies du projet de Bandung, 1955 à 1970 ou 1975, et du non-alignement, un certain nombre de pays arabes, notamment l'Égypte, l'Algérie, la Syrie, l'Irak, le Yémen du Sud, se trouvaient dans l'avant-garde des luttes de libération nationale et de progrès social de l'époque. Je dis bien de progrès social de l'époque. Les régimes en question n'étaient certainement pas démocratiques selon le critère occidental, puisqu'ils étaient des régimes de parti unique. Ils n'étaient pas non plus démocratiques dans mon acception du terme, parce qu'ils n'étaient pas fondés sur un pouvoir assumé réellement par le peuple et les classes populaires, mais ils n'en étaient pas moins parfaitement légitimes aux yeux de leur propre peuple. Ils étaient légitimes pour deux raisons très importantes. L'une, c'est que par des réformes par en haut, organisées par le pouvoir, ces régimes ont à leur actif des réalisations sociales gigantesques qui ont transformé, dans un sens positif, la structure de la société. Non seulement, ce n'est pas le plus important, des réformes agraires, mais également toutes sortes de, en s'engageant dans l'industrialisation, un bond gigantesque en matière d'éducation nationale et également des progrès très importants dans tous les domaines sociaux, notamment la santé, le logement, etc., etc. Ces régimes avaient donné également une garantie de quasi plein emploi, c'est difficile à mesurer, mais de quasi plein emploi, au moins pour tous les diplômés, et pas seulement du supérieur, mais également du secondaire. Ce qui voulait dire, et des droits effectifs aux travailleurs, une certaine protection, etc., etc. Tout cela leur donnait une parfaite légitimité, même sans démocratie, avec des méthodes, disons, d'un pouvoir, je l'appellerais de despotisme éclairé ou autocratique, mais agissant dans ce sens. Comme ces transformations positives étaient associées à des politiques internationales, des politiques étrangères indépendantes des grandes puissances, notamment des pays impérialistes et voire anti-impérialistes, cela renforçait également leur légitimité. Ces régimes ont réalisé ce qu'ils ont pu réaliser dans ce cadre en un temps relativement court, une ou deux décennies. Et ils se sont essoufflés rapidement. Et leur essoufflement ayant coïncidé avec également l'offensive du capital à l'échelle mondiale, du capital des monopoles à l'échelle mondiale, les régimes en place, pour rester au poste de commande, ont reculé, ont abandonné le projet national populaire, je l'appelle national populaire, non socialiste, mais ça a un sens, ont abandonné ce projet et se sont alignés sur les exigences de la libéralisation, c'est-à-dire les privatisations, les dérégulations, etc., etc. Il en est résulté que dans un temps très court, en quelques années, mettons entre 5 et 10 ans, tout ce qui avait été acquis, dans ce cas, ça n'avait pas été conquis, mais ça avait été acquis par les classes populaires et les classes moyennes, parce qu'à travers l'éducation, il y avait une mobilité sociale vers le haut gigantesque à l'origine de l'explosion en proportion des classes moyennes. Tout cela a été gommé. Et on est retourné à l'image du monde arabe antérieur, c'est-à-dire pauvreté grandissante, paupérisation accélérée, chômage massif, etc., etc. Désindustrialisation, etc., etc. Autrement dit, nous sommes rentrés dans une structure. Le développement a pris la direction de ce que mon camarade décédé, André Gunder Frank, avait appelé en son temps, dans d'autres conditions, mais peu importe, un lumpen développement, un véritable nouveau modèle de lumpen développement, avec une paupérisation et une accentuation des inégalités sociales gigantesques et très rapides. Alors, il fallait s'attendre à ce que ça explose. Ce n'est pas un phénomène particulier au monde arabe, puisque nous avions vu une dizaine ou une quinzaine d'années plus tôt des explosions de nature analogue, mais dans des circonstances et dans des structures différentes en Amérique du Sud, à commencer par le Brésil, mais Venezuela, Équateur, Bolivie, et voire même Argentine, etc. Et qu'avec le mouvement des indignés, dont on entendra dire quelque chose tout à l'heure, ou pour prendre un autre exemple, les explosions, les réponses cette paupérisation qui est mondiale, qui est un phénomène opérant à l'échelle mondiale en Grèce, c'est quelque chose qui caractérise notre époque et qui va la caractériser de plus en plus. Alors, les deux premiers mouvements, grands mouvements, on peut les appeler des grands mouvements populaires, celui de la Tunisie et celui de l'Égypte, ont entraîné graduellement, on peut dire, l'ensemble du pays. Lorsqu'en Égypte, on est parvenu à avoir 15 millions de manifestants quotidiennement, nuit et jour, pendant 2 semaines, ce n'est pas un petit chiffre, même pour un pays de 80 millions d'habitants. Donc, des mouvements populaires gigantesques, avec évidemment des composantes extrêmement diverses. J'ai écrit sur ce sujet plus en détail, je n'ai pas le temps ici d'y revenir, avec une composante nouvelle génération de jeunes que j'appelle le nouveau prolétariat, de précarisés, avec des qualifications qui sont largement supérieures à ce que leurs ancêtres dans les étapes antérieures du développement capitaliste avaient, à travers des réseaux de repolitisation par eux-mêmes, mais également les syndicats ouvriers, les syndicats, dans le cas de l'Égypte, indépendants, c'est-à-dire indépendants du pouvoir et du patronat, bien entendu, le mouvement paysan, etc., etc. Donc des composantes et des partis politiques dont, dans la tradition égyptienne, il n'y a pas de parti de la gauche radicale autre que de la tradition communiste, mais également des organisations, voire des embryons de partis des classes moyennes démocratiques. Face à cela, il y a un bloc réactionnaire. Le bloc réactionnaire, ce n'est pas seulement l'intervention étrangère. Il y a un bloc réactionnaire, dans le cas égyptien, il est particulièrement puissant, il a toujours été puissant. Un bloc réactionnaire, également avec des composantes diverses, mais je dirais avec 2 composantes majeures, dans le cas égyptien. C'est le commandement de l'armée, parce que l'aide des États-Unis à l'armée égyptienne n'était pas une aide destinée à renforcer sa capacité de défense, mais au contraire à la détruire en corrompant systématiquement et en faisant des officiers généraux une composante de la nouvelle bourgeoisie comprador, s'inscrivant dans ce développement libéral sur la privatisée, etc., etc. Et les frères musulmans. Les frères musulmans ne sont pas un parti islamiste à titre principal, c'est un parti réactionnaire. C'est un parti qui a pris position contre les grèves ouvrières, contre les syndicats indépendants du pouvoir, contre les mouvements de résistance de la paysannerie, contre, etc., etc. Un parti réactionnaire qui, de surcroît, utilise la rhétorique islamiste. Ce n'est pas le seul pays au monde où une rhétorique religieuse est utilisée par un parti réactionnaire. Face à cela, on a quelque chose d'assez voisin, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail et les différences, dans le cas tunisien. Assez voisin, mais avec ses particularités, évidemment, puisque là-bas, l'armée est hors jeu. Alors, face à cela, le bloc réactionnaire a développé une contre-stratégie que l'on appelle, dans le cas égyptien, le bloc anti-révolutionnaire. Il mérite bien ce nom. C'est-à-dire anti-révolution potentielle possible ou développement révolutionnaire possible du mouvement par une stratégie soutenue par Obama, le grand démocrate, et puis derrière lui, dans les minutes qui suivent, les pays européens, de élections pluripartites. C'est-à-dire transition courte, ordonnée, se soldant par des élections qui donnent mettre en place une nouvelle légitimité dite démocratique, parce qu'elle procède d'élections à peu près correctes et d'apparence pluripartite. Alors, ces élections, elles ont donné, comme vous le savez, les résultats qu'elles ont donnés, c'est-à-dire un triomphe des frères musulmans à 40% Nahda en Tunisie et à 60% dans le cas égyptien. Bon, c'était également tout à fait attendu. Il n'y a aucune surprise. Ce n'est pas seulement que les frères musulmans disposent de moyens gigantesques, de milliards de dollars du Golfe, et étaient les seuls à disposer de ces moyens, et que les autres forces politiques n'ont pas eu le temps, les semaines même, ou les mois qu'il aurait été nécessaire, et les années qu'il aurait été nécessaire pour pouvoir s'organiser. Mais c'est aussi pour 2 raisons que l'on passe totalement sous silence. La première raison, c'est la dépolitisation qui a été produite par la pratique autocratique, non démocratique des régimes nationaux populaires, en dépit de leur réalisation, et qui a été considérablement aggravée par l'association des frères musulmans au pouvoir, dans le cas égyptien, avec Sadat depuis 1970 et Moubarak. Les frères musulmans n'ont jamais été dans l'opposition. Sadat et Moubarak a continué, leur a donné la gestion de trois institutions fondamentales dans une société, l'éducation, la justice et la télévision. Vous voyez un gouvernement donner à l'opposition la télévision en particulier, mais également l'éducation et la justice. Bon, mais partie prenante dans le système, c'est vrai, avec un partage des responsabilités qui donnait au haut commandement de l'armée le dernier mot, les cartes principales en main. Non pas du tout avec des strapontins, parce qu'il ne s'agit pas de strapontins, mais avec une place seconde en matière de décision principale du pouvoir. Alors, on en est là. Et on en est là. Est-ce que ça veut dire que c'est fini ? La révolution, entre guillemets, n'ayant pas été une révolution, a avorté. La page est tournée et il y a maintenant une légitimité en place qui est la légitimité du Parlement élu, donc des frères musulmans, et probablement, c'est possible, ce n'est pas certain, d'un président issu de leur rang. C'est une légitimité. Mais cette légitimité, elle n'annule pas une autre légitimité, qui est la légitimité de la poursuite des luttes sociales. Des luttes qui sont à la fois, je ne dirais pas socialistes, mais pour le progrès social, pour, entre autres, dans le domaine de l'accès au travail, de la lutte contre le chômage, des conditions de travail, etc., des salaires et des retraites, mais également des services sociaux, et démocratiques, entendues comme non pas du tout limitées aux élections parlementaires, mais comme principalement le droit des travailleurs ou des classes populaires de s'organiser par elles-mêmes pour organiser la défense de leurs propres intérêts. C'est ça la définition dans les têtes des gens de la démocratie, et pas du tout les élections, ou très secondairement les élections. Alors, il y a ces deux légitimités, et je pense que cela veut dire que ces événements, la page n'est pas tournée, mais que nous sommes rentrés dans une période qui sera longue, avec des avancées et des reculs, des victoires et des défaites, comme toujours dans l'histoire, une longue période de montée des luttes, et qui correspond avec une longue période de montée des luttes, probablement à travers le monde entier, dans des formes différentes, et pour des raisons fondamentalement analogues. La deuxième raison du triomphe des frères musulmans, c'est que précisément, ils sont en position de tirer bénéfice du lumpen développement. Qu'est-ce que c'est que ce lumpen développement ? Ce lumpen développement, c'est le gonflement des activités dites informelles de survie. Or, les frères musulmans, grâce aux milliards du Golfe, financent ce développement. C'est-à-dire, ils ne financent pas le développement, ils financent le lumpen développement. Et le Golfe, les pays du Golfe en sont très conscients, et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'un véritable développement de l'Égypte, de l'Irak ou de la Syrie, mais un lumpen développement. Et par exemple, un bonhomme a besoin d'argent pour avoir un taxi pour pouvoir survivre, ils lui fournissent le taxi, ou avec un prêt sans intérêt, ou même en don. Et puis, parallèlement à la dégradation des services sociaux, ils établissent, grâce aux milliards du Golfe, des services de charité, notamment en matière de santé, mais qui sont appréciables. Et alors, ils pénètrent par ce moyen dans la société très profondément. Mais c'est une spirale descendante. C'est-à-dire que plus ils pénètrent, plus effectivement ce lumpen développement s'accentue, s'approfondit, s'installe dans la société. Et ça fait tout à fait l'affaire des Occidentaux. et notamment des États-Unis, mais aussi de l'Europe derrière elle. Ça fait l'affaire du grand capital international. Alors, nous en sommes là. Mais ce qu'il faut dire, et je voudrais en venir maintenant à ce deuxième point, c'est que les États-Unis en particulier ont tiré la leçon de leur surprise face aux événements de la Tunisie et de l'Égypte. Ils ont tiré la leçon et ils ont développé une nouvelle stratégie qui est de devancer l'explosion populaire, parce qu'il y a les mêmes raisons ailleurs pour des explosions de même nature de l'ensemble des classes populaires, voire même de larges segments des classes moyennes, de devancer le mouvement. Comment ? Par soit l'introduction de l'extérieur, soit parce qu'ils existent localement, l'utilisation, la mobilisation et l'utilisation immédiate de petits groupes armés, et ils sont armés par le Golfe, donc par les Occidentaux, armés pour s'attaquer immédiatement à l'appareil d'État, c'est-à-dire à l'armée et à la police, ce que les manifestants pacifiques, par 15 millions dans le cas égyptien, n'ont jamais fait, et s'autoproclamer immédiatement, soit armée de libération en Syrie, soit je ne sais pas trop quoi en Libye, et demander immédiatement, dès le premier jour, l'intervention militaire de soutien à l'Occident. Alors, c'est une stratégie très, très, très visible, hein, mise en œuvre par l'Europe et par les États-Unis. Elle a été mise en œuvre en Libye. Ça a été le test, avec succès, puisqu'elle est parvenue effectivement à assassiner Kadhafi et à supprimer son régime. Mais pour mettre quoi à la place ? Une démocratie ? Alors donc, regardez ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle. Dès le premier jour, d'ailleurs, le président de cette soi-disant combinaison démocratique n'était autre, Abdejiloul, que le juge qui avait condamné à mort les infirmières bulgares, drôle de démocrate. Hein. Mais le résultat a été la destruction du pays, la destruction de la Libye. Il n'y a plus en Libye d'État. Il y a maintenant une trentaine, on a répertorié à peu près une trentaine de seigneurs de guerre qui se partagent le territoire, le pillage du territoire, et avec toutes sortes d'atrocités largement supérieures à tout ce que la police de Kadhafi avait pu faire, notamment de racisme à l'égard des Noirs, etc. etc. Bon, on peut se demander, est-ce que ce n'était pas là l'objectif réel ? L'objectif réel de cette stratégie. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec la démocratie. Ça, c'est des mots. Hein. C'est des mots destinés à tromper. C'est la même stratégie que les mêmes puissances occidentales tentent à l'égard de la Syrie. La Syrie est comme l'Égypte. C'est-à-dire que le régime du Baas, il y a 50 ans, était légitime et il avait réalisé de très grandes choses. Mais à partir du moment où il a rallié le néolibéralisme, avec les mêmes conséquences qu'ailleurs, le désastre social a créé la base réelle pour une protestation. Et il a eu la même réaction, le régime de Hafez al-Assad d'abord et ensuite Bachar el-Assad, son fils, la même réaction que Sadat et Moubarak ont eu, et que Ben Ali a eu, c'est-à-dire de répondre à ce soulèvement graduel mais annoncé par une répression de plus en plus policière. De sorte que des régimes qui étaient autocratiques sans être... ils n'étaient pas démocratiques, ils étaient autocratiques et passablement policiers, mais peu importe, mais qui n'étaient pas odieux, sont devenus simplement des régimes odieux. Il y a donc cette base. Alors, mais il y a l'intervention extérieure. Et l'intervention extérieure, elle est celle des trois amis intimes, les États-Unis, Israël et le Golfe. C'est-à-dire l'Arabie saoudite et Qatar en particulier. Parce que ces trois amis intimes ont le même intérêt commun, c'est-à-dire que les pays arabes de la région, l'Égypte, la Syrie et l'Irak en particulier, n'existent plus. Soit réellement, leur objectif est de détruire l'État et, disons, la société, de la détruire. Rien d'autre. La démocratie, en l'occurrence, n'est que... s'il y a un menteur, ce n'est pas Bachar el-Assad, c'est Juppé, quand il parle de démocratie. avec les gens avec qui ils travaillent, c'est-à-dire en particulier recrutés par Al-Qaïda. Hein, c'est amusant, presque. Bien. Alors, c'est ça leur stratégie. Bon, face à cette stratégie, dans le cas syrien, nous avons eu la réponse du régime, c'est-à-dire la répression. Et ceci a placé le mouvement démocratique et populaire syrien dans une position délicate, difficile. Ce mouvement, avec ses composantes diverses, n'a pas voulu rejoindre la rébellion, parce qu'elle a tout de suite compris qu'après le modèle libyen, à quoi ça conduisait, mais elle ne veut pas non plus soutenir le régime de Bachar el-Assad. Et le régime de Bachar el-Assad ne répond pas aux défis, parce que la seule réponse aux défis serait des réformes, serait de s'éloigner du néolibéralisme, serait de reprendre dans des conditions nouvelles, il n'y a pas de remake dans l'histoire, non pas de revenir à ce qu'il avait été 50 ans plus tôt, mais de reprendre une logique de développement différente. Et bon, alors nous sommes là dans cette stratégie. Est-ce que ce régime va être ou ne va pas être capable, ce régime, ou des gens dans ce régime, ou des fractions du pouvoir tel qu'il est, capable ou pas capable de comprendre qu'il ne peut pas faire face aux défis. Alors, il y a sur les faits des quantités d'analyse et documentées qui ont été fournies. Elles ne sont jamais données par les médias. Le clergé médiatique au service de l'aristocratie financière ne donne jamais ces informations. Mais il y a par exemple un livre qui s'appelle Syriane, qui est très bien documenté sur l'intervention de la Turquie. La Turquie, je dis ça à mes amis latino-américains parce qu'ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire, je dis c'est la Colombie du Moyen-Orient. les camps dits de réfugiés, il y a peut-être quelques réfugiés, sont des camps d'entraînement, on pourrait les appeler des terroristes, mais peu importe, de forces destinées à intervenir à partir de l'extérieur, dans la région de Hatay, dans l'ancien Sanjak d'Alexandrette. Bon, et il y a toute une littérature là-dessus, et il serait bon qu'on la connaisse davantage en Europe. Bien, alors c'est ça cette stratégie. Bon, et je vais conclure. L'objectif, par conséquent, des puissances impérialistes, ça n'a jamais été ni le développement ni la démocratie. Ils sont les ennemis fondamentaux du développement, d'un développement digne de ce nom, c'est-à-dire d'un développement qui bénéficie, je ne parle pas de socialisme, qui bénéficie aux grandes majorités, qui soit partagé avec les grandes majorités, qui soit à la base d'une amélioration des conditions de vie pour les grandes majorités et qui soit en même temps digne au plan national, c'est-à-dire qui renforce la capacité de manœuvre dans l'échiquier international et l'indépendance relative ou l'autonomie, disons, à ce plan. Ils sont les ennemis de cela et par conséquent les ennemis de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie qui puisse être associée au désastre social. C'est une farce. Et on voit cette farce maintenant de la manière la plus grotesque quand on voit Juppé avec le roi d'Arabie, l'émir du Qatar, constituant un front démocratique, un front pour la démocratie au Moyen-Orient. Amusant. Mais l'objectif réel, la guerre d'Irak l'a montré. La guerre d'Irak n'a pas libéré l'Irak de son dictateur, réel dictateur et sanguinaire, qui était Saddam Hussein, pour le remplacer par une belle démocratie. Ça a été remplacé par trois dictatures, deux au nom de la soi-disant religion, en l'occurrence sunna et chiite, et une au nom de la soi-disant ethnicité, les Kurdes, elles-mêmes divisées en deux d'ailleurs, dont les crimes quotidiens sont largement supérieurs à tout ce que Saddam Hussein avait pu faire. Bon, c'est-à-dire, mais c'est la destruction d'un pays. Et cette destruction, elle est planifiée. On se souvient du scandale de Katyn, des officiers polonais fusillés sur ordre de Staline. les sous-ordres, certainement sous-ordre de deux présidents américains, dont Obama, un nombre beaucoup plus grand de cadres irakiens ont été massacrés, assassinés. Et quand je dis cadres, pas les cadres politiques, ceux-là ont retourné leur veste rapidement. Tous les ingénieurs, tous les scientifiques, voire un grand nombre de poètes, etc., etc. C'est-à-dire de détruire un pays. Ça s'appelle détruire un pays. C'est ça le véritable objectif. Et c'est l'objectif pour la Syrie. Et c'est là que l'on voit l'intérêt collectif commun aux trois alliés intimes. Les États-Unis, parce que leur projet et leur stratégie de contrôle militaire de la planète passe par le contrôle militaire particulièrement sévère de cette région, non pas seulement parce qu'elle est très riche en pétrole, mais aussi parce qu'elle est géographiquement au cœur de l'ancien monde, et d'exercer à travers elle une menace directe contre la Chine et la Russie, et vous comprendrez pourquoi leur juste veto aux Nations Unies sur ce plan, après avoir été eu comme des enfants de cœur sur la question libyenne, dans cette perspective de contrôler la région. Ça, c'est Israël, parce que l'éclatement ou l'annihilation des pays de la région lui donne une carte blanche pour une expansion de sa colonisation plus grande encore, à une plus grande échelle. Et puis l'Arabie saoudite, le Golfe, parce que l'hégémonie, entre guillemets, l'hégémonie du Golfe sur les pays arabes suppose les pays arabes à plat ventre. Du temps de Nasser, personne ne parlait du poids des pays du Golfe, en dépit de leurs milliards et en dépit de leur discours islamiste, qui est le même qu'aujourd'hui, en dépit de tout cela. Et le peuple égyptien, comme les autres peuples, n'était pas moins musulman à l'époque qu'il n'est aujourd'hui. Et par conséquent, leur hégémonie qui instrumentalise l'interprétation la plus vulgairement réactionnaire de l'islam. Il y a eu d'autres interprétations de religion également réactionnaires. Ce n'est pas une chose tout à fait spéciale et nouvelle. La plus primitive, la plus vulgaire et la plus réactionnaire, leur hégémonie n'est possible qu'à la condition, effectivement, que les autres pays arabes soient complètement détruits et soient condamnés à ce lumpen développement. Alors, je conclue exactement 30 minutes. J'aurais pu être beaucoup plus long, mais peut-être que dans la discussion, on pourra revenir sur certains points. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samir. Donc, l'objectif était dans cette soirée de trouver des points de rencontre autour de la notion de démocratie. Et déjà dans l'exposé qui vient d'être fait, je pense qu'on a déjà des points de rencontre, ne serait-ce que sur la question du progrès social. José Luis.
Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Et voilà, je vais concentrer mon intervention surtout sur un niveau plus micro, c'est-à-dire je vais tenter de décrire qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont composés, quels sont les problèmes des assemblées, des mouvements de 15 mai, ici connus comme le mouvement des indignados. Voilà. Donc, premièrement, je vous présente très brièvement les phases du mouvement et à la fin, je vais mettre un petit vidéo où on peut se voir l'idéologie du mouvement. Voilà. Mais mon intervention va se concentrer plutôt dans l'expérience que j'ai eue des assemblées des mouvements. Donc, je commence. Une première manifestation convoquée le 15 mai pour une organisation que personne connaissait, démocratie réelle déjà, a convoqué milliards de personnes dans toutes les grandes villes de l'Espagne. Quand je suis allé à cette manifestation, je croyais que j'allais à une manif de syndicats. Une fois que je suis arrivé, j'ai vu que les drapeaux politiques étaient interdits et qu'il avait un répertoire de consignes très élaboré, dont la principale, nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des politiciens et des banquiers. Donc voilà, première expérience collective. Une appel à manif presque clandestin, diffusé par Internet. Il n'y avait pas d'affiche dans la ville où je suis allé à la manif, c'était Cadix, et qui a été diffusé partout de l'Espagne. Ici, on parlait de la Puerta del Sol. Si le mouvement de Casme serait à la Puerta del Sol, ça aurait eu aucune valeur. L'importance du mouvement de Casme, c'est que depuis le 15 mai 2011, il continue à maintenir des assemblées presque toutes les semaines dans tout, presque toutes les villes moyennes de l'Espagne. Donc voilà, je crois que c'est une expérience extraordinaire. Il faudrait faire l'histoire des mouvements assembléistes, de leur durée et de leur permanence, et faire la comparaison. Je n'ai pas le temps. Mais je vais me concentrer dans ce type de forme d'organisation collective, dans leur vertu politique et mobilisatrice, mais aussi dans leur faiblesse. Donc, comment je parle? Je ne parle pas comme un sociologue, je ne parle pas comme un philosophe, je parle comme un membre du mouvement du 15 mai. Néanmoins, j'ai tenté d'organiser mon expérience et l'expérience que j'ai avec mes collègues, mes compagnons, mes camarades, avec mes outils. Donc, après la première manif, il a commencé une occupation de beaucoup de places dans toutes les villes de l'Espagne. Une occupation collective qui s'était plutôt liée à des campements. Il y avait des gens qui étaient à camper, qui dormaient dans la place, mais qui s'était liée aussi à ce qu'on a appelé des agogas. À la fois, il avait une sensation d'être en cours d'organiser, de continuer une expérience qui était au-delà de l'Espagne. Je lui disais à Samir Amin qu'on proposait de rebaptiser les places où le mouvement était présent comme des places Tahir. Donc, la référence de l'Égypte, c'est la référence d'un pays arabe qui était un exemple de mouvement démocratique. Je crois que ça, c'est très important du point de vue symbolique pour un pays occidental et pour une population comme l'espagnol qui a une lourde histoire de querelles anti-musulmans. Donc, à ce moment-là, le gouvernement, c'était le gouvernement socialiste. Il a une stratégie très prudente par rapport envers les mouvements. Mais il a eu un moment clé. C'était la veille des élections locaux, des élections aux mairies. Et il était interdit de manifester. Et c'est la journée de réflexion, ce qu'on appelle la journée de réflexion. À ce moment-là, on a fait des manifestations énormes et en silence dans toute l'Espagne. Cet apprentissage de la discipline collective a donné une force énorme à qui ? À des personnes qui jusqu'alors n'avaient participé en politique. Donc, après ça, il arrive le mois juin et les assemblées se divisent par quartier. La permanence dans les centres-villes devenait très coûteuse. Il avait un risque énorme de professionnalisation dans la proteste. Il avait un risque énorme d'accumulation de prestige collectif pour le seul fait d'être présent dans la place. Donc, le mouvement, je crois que ça a été un atout, un coup très important et très intelligent, a décidé de décentraliser les assemblées et de les organiser par des quartiers. Voilà la situation jusqu'à aujourd'hui. Donc, le 1er juin, je suis allé, j'ai déménagé de Cadix à Séville, où j'ai fait les premiers 15 jours du mouvement à Cadix. Après, je suis allé à Séville. Le 1er juin, je suis allé à une assemblée de Séville. Et il y a une semaine, j'ai continué à aller à cette assemblée-là. Au premier moment, il avait 90 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 20-25. Dans mon quartier. Il y a des dimensions similaires dans tous les quartiers de la ville. Selon un sondage du Centre d'investigation sociologique, au moins 8 millions d'Espagnols sont participés au moins une fois dans des assemblées de mouvements du 15 mai. Au moins une fois. L'appui, selon aussi le sondage, reste longuement majoritaire. au-delà des clivages dans l'option de vote. Voilà, niveau général. Pourquoi il est intéressant de parler des assemblées? Parce que dans la théorie politique, l'assembléisme, c'est quelque chose de très discrédité, sauf dans la tradition libertaire. La version, on peut dire, classique, l'a donnée Hobbes, mais ça venait des Grecs, en disant les assemblées démocratiques, ce sont que la tyrannie de certains démagogues ou d'un seul démagogue. Mais dans les assemblées, il ne peut pas avoir une participation politique massive. Donc ça, c'est très intériorisé par la culture standard politique. C'est une culture qui appuie la démocratie représentative, mais aussi, et c'est très important, pour la culture de gauche. Au fait, je suis témoin de comment le manque de précision idéologique et politique rendrait très nerveux et très angoissé aux militantes d'organisations politiques. Donc, l'idée léniniste de faire entrer ton répertoire politique et idéologique dans les mouvements de masse et les conduire, c'est très important aussi dans la culture de gauche. Pas seulement léniniste, on pourrait le trouver aussi si de forme plus anarchiste ou plus social-démocrate. Donc, voilà. Donc, comment je vais vous présenter mon expérience des assemblées? Autour des quatre pôles que je prends d'une lecture de la démocratie que fait mon cher Foucault dans le gouvernement des soi et des autres. Voilà, il fait une lecture de la démocratie grecque à partir d'un discours de Périclès. Je vais vous parler de ça, si après ça vous intéresse, je peux vous parler. Il dit la démocratie, la prise de parole dans une assemblée démocratique a quatre conditions. Des conditions formales, comment on peut prendre la parole, de quoi on peut parler. Une autre condition, c'est qu'il y a une égalité énorme de prestige entre les orateurs. C'est-à-dire, dans les assemblées, les gens ne sont pas égaux. Ils sont différents. Il y a une hiérarchie de prestige. Troisième condition, il y a un rapport à la vérité de chaque propos. C'est-à-dire, il y a des différences de capital culturel. Les gens sachent de quoi ils parlent ou ils ne le sachent pas. Sur certaines questions, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a aussi des hiérarchies. Et après, la présence et la permanence dans des assemblées suppose un engagement personnel, physique, quotidien. Il faut s'en tenir quand on t'insulte. Il faut se contrôler. C'est ce qu'on appelait Foucault le courage. Pour être dans une assemblée, il y a une condition très subjective, mais qui est très important au niveau collectif, qui est avoir un avis, le corriger, c'est-à-dire un engagement personnel. Donc, autour de ces quatre questions, je vais tenter de vous montrer qu'est-ce que je vois de fortes dans les mouvements de 15 mai et quelles sont ses faiblesses. Au niveau formel, je dirais le plus important des mouvements de 15 mai, c'est une civilisation énorme demeure dans la prise de parole collective. Vous connaissez tout, l'interdiction d'applaudissements, mover les mouvements des mains, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important est le suivant. Il y a une culture psychologique très répandue, qui était très importante à l'ère de gérer les conflits. C'est-à-dire, tous les assemblées des mouvements de 15 mai avaient des gens qui avaient en connaissant plus ou moins avancé de la thérapie psychologique, de l'animation socioculturelle. Ces gens-là ont produit un truc complètement incroyable et qui était très méprisé par les militants politiques, qui était la commission des conflits. Ont tenté de refroidir, d'apaiser, de gouverner tous les surenchères, surtout viriles, caractéristiques de la discussion politique. Donc voilà, La culture psychologique est très répandue. Parfois, c'est une culture savante, plus ou moins savante, qu'on a appris à l'université, mais parfois, c'est une culture qu'on a lue dans la revue Marie-Claire, au Cosmopolitan. Bien sûr, ça, c'est une des conditions fondamentales pour la permanence des assemblées ou dans des sites d'Internet. C'est-à-dire, les assemblées devenaient vivables pour des gens qui n'étaient pas ni des politiciens professionnels, ni des gens doués d'un charisme énorme, par la simple raison que le contrôle collectif de l'agressivité était énorme. Ça a produit un changement de culture politique très fort qui est devenu la fierté du mouvement. Ce qu'on appelle entre nous, ça c'est la culture 15 mai. Ici, on ne s'insulte pas. Ici, on ne crie pas. Voilà, c'est très important. Donc, le rapport des sexes est très important. La culture psychologique est très importante pour que les conditions formelles de la prise de parole soient les plus partagées possibles et les plus vivables possibles pour des gens d'origine sociale différente. Des autres questions sont très importantes, mais ça aussi de l'héritage classique. C'est la rotation des mandats, l'interdiction d'être porte-parole plus de 2 fois dans des assemblées. L'assemblée des quartiers, il y avait l'assemblée de la ville. Donc, tu as 2 mandats pour être porte-parole. Mais ce sont déjà des choses plus connues. Et à la fois, un travail énorme, parfois un peu bureaucratique, des contrôles de la prise de décision au niveau collectif. Ça a donné des protocoles très intéressants, au moins à mon avis, très intéressants, de qu'est-ce que c'est un mandat, comment, qu'est-ce que c'est représenté, jusqu'à quel point, quelle décision peut prendre pour toi-même, comment après l'Assemblée peut être contrôlée, etc. Voilà les vertus, les faiblesses. Une faiblesse très importante, c'est les assemblées dues au contrôle démocratique de la parole deviennent chaque fois plus bureaucratiques. Donc, il y a un type de culture organisationnelle qui se met en place, qui permet que la parole soit plus libre et plus partagée, mais qui vide des contenus politiques, les assemblées. Donc, première faiblesse énorme, mais qui est aussi liée à la force. Deuxième question, c'est la présence dans toutes les organisations politiques et dans toutes les chapelles politiques d'une impatience énorme pour introduire des débats idéologiques. Selon le répertoire du mouvement socialiste et anarchiste, du 19e siècle et du 20e siècle. C'est-à-dire produire des petits parlements d'états parlementaires. Ça, c'est le deuxième problème. Et il était très difficile de contrôler et 4 personnes peuvent manipuler très bien une assemblée de 200. S'ils sont des professionnels. Et troisième question qui n'était pas bien vue malgré la présence de la culture, d'une certaine culture féministe dans beaucoup de couches de classe moyenne et aussi de classe populaire en Espagne. C'est l'existence d'assemblées permanentes faisait que les gens qui avaient des charges familiales ou des charges de travail n'étaient pas disponibles. Voilà une faiblesse énorme qui joue un rôle très important dans une sélection des classes et des gens dans les mouvements. Pour finir, il y a aussi une partie de violence énorme liée au débat en Internet. Je ne vais pas le développer, mais la rupture des cadres d'interaction charnels dans les débats fait monter jusqu'au niveau hallucinant le complexe de petit Lénine ou petit Bakounine qui fait la leçon à tout le monde. Donc la même personne qui peut être, avec laquelle on peut être d'accord, par courrier électronique, produit des effets dévastateurs. Ça, c'est quelque chose de très important du point de vue de l'analyse sociologique des mouvements sociaux. C'est-à-dire, je crois chaque fois moins dans l'idée d'une démocratie par Internet. Bon, on passe à la deuxième question, c'est le rapport au savoir, la distribution inégale du savoir. Dans les mouvements, il y a une chose qui a permis que les mouvements ne deviennent pas alliés ou ils s'imposaient la culture soit des intellectuels, soit des dirigeants politiques, c'est la revalorisation de tous les petits travails d'organisation des assemblées. Mais aussi une certaine culture très populiste qui rassemble beaucoup à ce qu'on appelle en sociologie la culture anti-école. C'est-à-dire où le rapport au savoir est plus ou moins stigmatisé. Donc la dépolitisation, le manque de connaissances sont transformés dans un signe d'identité et de pureté dans les mouvements. Voilà, ça a permis que le mouvement soit un mouvement populaire. Sinon, il aurait devenu le lieu de disputes de divers propriétaires des prophéties militantes ou des capitales culturelles. Donc, voilà. Et d'autre part, la prise de parole a été chaque fois, ou été très souvent concentrée dans les récits massifs, les récits permanents des souffrances. Ça, c'était aussi important pour une raison. On a vu des personnes de beaucoup de couches sociales raconter leur histoire. Les raconter en public, et ça a donné un sens politique au mouvement. Ça a aidé à se dire, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas quatre fous. Tu vois ce mec-là, il était un petit entrepreneur. Tu vois ce type, il travaillait comme fonctionnaire. Donc voilà, ce type de récit très empiriste, très lié aux souffrances personnelles, aider aux gens à se sentir importantes. Voilà. Et quel est le problème? La difficulté énorme à produire un programme politique digne de ce nom. C'est-à-dire, au-delà de nous sommes beaucoup, nous sommes oppressés, ce sont des menteurs, ce sont des voyous, on a eu des problèmes très fortes de production d'un programme politique. Mais il y a une chose qui a été aussi importante. La création partout des commissions sur des thèmes très concrets, par exemple urbanisme ou par exemple logement. Ça a permis que beaucoup de personnes, en travaillant sur des thèmes très concrets, parfois avec des spécialistes, on a accumulé une énorme compétence politique et parfois scientifique. Je connais certaines personnes sans études qui pourraient parler d'urbanisme dans une université. Mais c'est dans un type de groupe de travail très concret, autour des problèmes très concrets, et on peut dire les formes de distinction et de présentation de soi étaient très contrôlées parce que les thèmes étaient très cernés. Donc, voilà une question importante par rapport au savoir et une autre question très importante. Le mouvement n'a pas produit une réponse à la mesure de sa puissance dans l'université. Sauf dans des champs, dans des territoires de savoir, dans des professions qui sont les suivantes. Les économistes. Dans les économistes, il y a une infraction dans le monde universitaire et scientifique, très clairement situé à gauche. ces gens-là, ils ont rejoint le mouvement très tôt. Ils l'ont donné un discours économique très compétent. Aujourd'hui, un des députés de la gauche unie, d'un parti similaire au Front de gauche en France, c'est quelqu'un qui vient des mouvements de Casmé et c'est un des députés, c'est le plus jeune, et un des députés les plus compétents du Parlement. Il y a un autre groupe professionnel qui avait aussi une crise avant les mouvements de Casmé et qui était très présent dans les mouvements, c'était les journalistes. Ça a fait une stratégie de communication, vous allez voir en vidéo après, énormément riche et surtout en contact à la base avec la presse qui a interdit la stigmatisation du mouvement dans les grands médias. Donc voilà, c'est-à-dire il y a une compétence croissante déjà dans les terrains de l'économie et des formes d'organisation de la communication publique et de la mise en valeur des mouvements qui sont très liés à l'appui et la présence des journalistes. Donc, par rapport, pour les philosophes, pour les sociologues, pour les anthropologues, je crois, si je ne me trompe pas, nous sommes très paix. On attend qu'est-ce qu'ils vont faire notre cher collègue. La troisième question, c'est liée aux formes de prestige dans les assemblées, c'est-à-dire toutes les personnes qui parlent ne sont pas les mêmes. Surtout, il y a une chose très importante, c'est dans une assemblée publique, c'est la promiscuité. Dit à la présence des gens qui ne se voient jamais. À côté d'un cadre de classe moyenne, il y a une personne très pauvre qui arrive là, avec son chien, avec ses outils pour faire à manger, etc. Voilà. Comment on a fait pour faire vivre ce type de personnes-là et pour les faire rentrer dans des entreprises à long terme, une entreprise politique à long terme, permanente. Ça a produit beaucoup de problèmes. Toutes les formes de racisme et de classe sont à Paris. Mais, la clé a été que les mouvements organisés, je crois, d'une manière plus ou moins sage, autour des commissions de travail, une distribution de la reconnaissance symbolique très démocratique. C'est-à-dire, on a valorisé les gens, pas par ce qu'ils disaient dans leurs paroles, quand ils parlaient, mais par ce qu'ils faisaient. Et avant de commencer toutes les assemblées, on s'est rappelé de ce qu'on avait fait pendant la semaine et qui l'avait fait. Ça a produit, on peut dire, des formes de prestige spécifiques au mouvement. Ça a produit aussi des contacts entre personnes que d'autre manière ne se seront jamais vus, n'auront jamais pris une bière ensemble. Pour des raisons, parce que l'aspect, l'odeur, voilà. La manière de parler les rassemblait complètement insupportable. Donc voilà. Et une autre chose très importante, c'est le contrôle de toutes les formes, le contrôle collectif de toutes les formes d'harcèlement et de mépris. Ça devenait chaque fois plus important à fur et à mesure que les gouvernements et les médias de droite commençaient à nous stigmatiser comme des gens dégradés, comme des gauchistes terribles, comme des violents. Ils nous appelaient perroflauta. Celui qui a un chien et une flaute. Vous voyez? C'est l'image d'un certain type de personnes. Mais ça a devenu une sorte d'orgueil collectif. Nous sommes tous des chiens flottes. Et au fait, il est sorti, on peut dire, ils sont sortis des vieillards flottes aussi. Et voilà, et donc pour le prestige et pour les formes de défense contre les stigmatisations symboliques des mouvements. Mais, et il y a des choses au moins dans la question du prestige qui sont des menaces très importantes à la survivance des assemblées. D'une part, des gens qui sont devenus des spécialistes de la performance. Voilà, il faut pas insister. Des gens qui ont pris une sorte de style vestimentaire, une manière de parler, mouvement des indignados, et qui sont capables de devenir presque des professionnels du mouvement et des formes de contrôle des assemblées. D'autre part, la tendance à cette tendance à travailler sur des petits thèmes produit aussi une chose négative, la dispersion énorme. Chacun fait son truc, il accumule son capital symbolique en durée et ça devient une sorte d'entreprise d'un petit groupe. Des entreprises qui parfois rentrent en concurrence. C'est pas rare, c'est la vie sociale qui se reproduit aussi dans les mouvements. On finit par le courage. Quel a été le point le plus important du courage, du point de vue d'investissement personnel dans les mouvements? Je crois que c'est la capacité de se contrôler face, d'une part, à la répression, d'autre part, à les répertoires de mobilisation typiques de l'extrême gauche, qui est toujours prêt à faire la bataille avec la police. Ça avait aussi une condition fondamentale, c'est qu'il avait une division réelle dans la police espagnole. Ça, c'est public. Il avait des fractions d'extrême droite dans la police qui étaient anxieux d'intervenir. Il avait les syndicats les plus importants pour l'instant dans la police espagnole, les syndicats unifiés de la police, qui a été très vigilante contre toutes les formes violentes d'action des anti-émeutes. Mais ça supposait aussi un travail interne contre toute la mystique de la violence, de la guerre contre l'État, contre toute l'idéologie, à mon avis, idiote et inutile, de que les policiers sont tous des canailles, qui a produit des moments mémorables, comme le moment où un policier habillé en civil a parlé dans une assemblée, ou le moment où, après les très graves affrontements pendant la visite du pape, les syndicats unifiés de la police a réprouvé publiquement les comportements de ses compagnons. Et il a dit, pour être patriote, il faut défendre la Constitution espagnole. Et dans la Constitution espagnole, il y a le droit à manifester. On ne peut pas agir comme ça. Donc voilà, je crois que ça a à voir aussi, mais ça on peut le voir après, avec une culture pacifiste très importante en Espagne, qui vient des mouvements contre l'OTAN et des mouvements antimilitaristes, et qui a produit un répertoire de mobilisation collective très particulier. Donc voilà, je crois que c'est déjà le temps. Et si on a 2 minutes, on va voir en vidéo, où vous pouvez voir un peu l'idéologie du mouvement.
Una cosa y me gustaría que la escucharas porque te la estoy diciendo desde tu barrio. Yo no sé si hemos pasado siempre de la política, pero lo que sí está claro es que el sistema político nos ha decepcionado.
Igual mañana nos echan del trabajo sin que podamos defender nuestros derechos.
Igual tendremos que pagar a nuestro médico o el colegio de nuestros hijos.
Igual un banco nos desahucia y nos deja con la hipoteca.
Pero sin la casa.
Y mientras nos siguen haciendo recortes, nos obligan a pagar más y más a los mismos bancos que nos han arruinado.
Pero ellos siguen sumando beneficios. porque esto no es una crisis, es una estafa.
¿Quieres que sean otros los que decidan por ti? Los bancos, los políticos, los mercados.
Solo si tú decides, nadie va a decidir por ti.
Y ahora tiene un lugar donde hacerlo.
Cada semana, en tu barrio, en tu pueblo, nos estamos reuniendo para ver qué hacemos con todo esto.
Ahora tu barrio empieza a ser tu barrio. Ahora tu pueblo empieza a ser tu pueblo.
Ahora tu vida empieza a ser tu vida.
Porque lo que tú tienes que decir, lo que yo tengo que decir, o lo que cualquiera tiene que decir...
¡Por mí es cosa de todos!
Que ça pour le débat, et l'idée c'est vraiment de vous donner la parole, de donner la parole à vous qui êtes là, au public, mais je peux reprendre un petit peu, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Est-ce qu'il y a déjà des interventions? Sinon, moi, il y a une question, parce qu'on disait que, on essayait de trouver les points communs. Moi, il y en avait une première qui me venait à l'esprit à travers le titre même qu'on avait donné à cette conférence, hein, de la place Tahrir à la Puerta del Sol, c'est la question de l'espace, la question de la réappropriation de l'espace public, qui s'est posée de manière évidemment fort différente dans les deux situations, mais qui quand même est quelque chose de central aujourd'hui. Je te cite, Rosé Louise, dans l'article, tu dis que récupérer l'espace public comme dimension centrale de la vie de chacun est la plus forte résistance que l'on puisse opposer au capitalisme dans la forme prédatrice qu'il prend aujourd'hui. Donc je voyais déjà ce lien là entre vos deux interventions. Donc.
Oui, moi je voudrais remercier José Luis. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais totalement, je le reconnais totalement, sur le mouvement et qui sont très importantes. Il y a, en dépit des différences gigantesques de situation objective, un dénominateur commun très très large, hein, et je crois qui est large à l'échelle mondiale. Moi, j'analyse les choses de la manière suivante. Qu'est-ce qui crée ce dénominateur commun? C'est qu'au cours des 50 dernières années, nous avons eu des transformations très différentes, mais à l'échelle mondiale, allant toutes dans le même sens, même en dépit de leurs différences, une gigantesque prolétarisation associée à une gigantesque segmentarisation de ce prolétariat. C'est-à-dire un nouveau prolétariat, vendeur de force de leur travail et non rien d'autre, a un capital de plus en plus concentré, centralisé dans son contrôle, par ce que j'appelle les monopoles généralisés. Et donc... Contrairement à la thèse populaire du recul de la classe ouvrière, etc., etc., tout cela entre guillemets, au contraire, une gigantesque prolétarisation. Mais en même temps, une gigantesque segmentarisation de ce prolétariat est différente dans sa segmentarisation dans un pays comme l'Espagne ou l'Égypte ou n'importe lequel des autres pays du monde. Alors, ça, c'est ça le défi auquel les gauches radicales ou potentiellement radicales ayant une tradition, une culture politique constituée antérieurement auxquelles ils sont confrontés. C'est-à-dire que les formes d'organisation et d'action, et les deux sont intimement indissociables, ne peuvent plus être ce qu'elles ont été avec efficacité dans un temps antérieur. C'est-à-dire que la forme, si on l'appelle forme parti, que ce soit un parti communiste ou un parti social-démocrate, de la vraie social-démocratie, pas du social-libéralisme, ou un parti de libération nationale associé à des transformations sociales progressistes, ce n'est pas parce que simplement cette partie, la critique juste mais facile, des partis hiérarchisés, etc., et voire parce que hiérarchisés... bureaucratisé, non. Mais c'est parce qu'ils répondaient avec efficacité aux défis de leur temps. Maintenant, nous avons affaire à une autre. Alors, Je pense que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Je pense qu'il y a des embryons d'inventions nouvelles en Espagne. Hein. Des embryons. Et je dirais, il y a des embryons d'inventions nouvelles en Égypte. Au mois de mai 2011, il y a eu l'embryon de ce que les Égyptiens de l'époque ont appelé Barlaman Sharb, le Parlement du peuple, ou Barlaman Shara, Parlement de la rue, ce qui explique également la réappropriation de l'espace. Ce Parlement, un Parlement non élu, entre guillemets, mais un Parlement représentatif des forces les plus actives de la société, c'est-à-dire où venaient, au niveau national, au syndicat des journalistes au Caire, qui est un bâtiment pharaonique avec des petites salles pour 5000 personnes, en permanence, mais aussi dans les quartiers, et pas seulement au Caire, dans toutes les villes, voire même dans des gros bourgs, hein, réunissant les réseaux de jeunes politisés, les partis de la gauche radicale, c'est-à-dire la tradition communiste, les organisations et partis embryonnaires des classes moyennes démocratiques, les syndicats, les très dispersés, les organisations paysannes et des organisations multiples de défense de droits, notamment des femmes, mais de toutes sortes. C'était, je crois, une forme qui aurait pu donner davantage, qui aurait pu se cristalliser et sans être la réponse finale à quoi que ce soit, être un pas en avant. Bon, il y a eu recul à partir du mois de juillet de l'an dernier. Ce recul, moi, je l'associe, je ne sais pas si j'ai raison, je l'associe à une certaine montée de l'illusion électorale, qui a quand même occupé les gens, parce qu'à ce moment-là, on va avoir des élections, ça va être en octobre ou en décembre, à l'époque c'était prévu pour octobre, donc nous sommes à 3 mois, il faut s'organiser pour cela, etc. etc. Peut-être que maintenant, peut-être, je dirais Inch'Allah, et je l'espère, avec la déception, élection, ça ne sert à rien. Maintenant, on redit de nouveau en Égypte, el barlaman el muntakhab huwa barlaman el filous huwa barlaman el sha'b huwa shara. Le Parlement élu est toujours le Parlement de l'argent et le Parlement du peuple, c'est la rue. C'est-à-dire, c'est la bataille sociale. Et c'est très intéressant. Est-ce que la gauche potentiellement radicale et les autres vont pouvoir tirer quelques leçons et se réorganiser dans cette direction ? Je n'en sais rien. Mais je vois là vraiment des terrains très communs. Et je crois qu'on pourrait traduire cela dans d'autres langages. Je dirais pour la France, que va devenir le front de gauche après les élections, hein ? Va-t-il disparaître parce que les élections sont passées, ou va-t-il devenir le début de l'invention d'une autre forme d'organisation, hein ? Bon, etc. On peut, je crois, multiplier les exemples à travers le monde entier, sans doute.
Est-ce que tu veux répondre sur l'espace ? Il y avait aussi un point qui vient d'être repris, qui était assez flagrant dans vos deux exposés. C'est cette dépolitisation, repolitisation. Dans les deux exposés, on entendait ça. Donc peut-être sur les...
Moi, j'ai l'impression que pour des personnes qui sont passées par l'école, qui n'ont pas été socialisées dans l'imaginaire de la gauche, les formes de politisation anciennes ne fonctionnent pas. Surtout la forme de don de soi qui suppose la confiance dans les dirigeants, dans les chefs, etc. C'est l'impression que j'ai. C'est pas seulement les classes moyennes, c'est pas seulement les universitaires, c'est aussi dans la classe ouvrière. Donc, il me semble que aujourd'hui, les nouveaux prolétariats, ce sont des personnes qui sont peut-être exploitées dans leur travail, mais qui ont aussi une vie plus ou moins riche, et d'expériences collectives, et qui voient la télé, qui lit plus ou moins ces choses. Nous, les Santelons, nous pensons toujours qu'ils lisent que des conneries, mais il faut vérifier parfois. Donc voilà, c'est la vie que j'ai. Donc je crois qu'une des choses importantes de ce type de mouvement, c'est qu'il permet aux personnes de se reconnaître dans des formes de participation collective, avec toutes les faiblesses que ça a. Et moi, je pense qu'il y a encore, il me semble, dans la culture de gauche que je connais, l'idée qu'il faut les politiser. C'est-à-dire qu'il faut introduire de l'extérieur la bonne théorie, la bonne science. Parfois, c'est vrai. Il y a des acquis scientifiques, et politiques, et militantes extraordinaires. Il ne faut pas remettre les choses à les compter à zéro. Voilà, il y a des acquis extraordinaires. Mais il faut aussi, je crois, prêter attention à ce que ce type de mouvements sont capables de faire sans l'appui des partis politiques. Et quelles sont les formes de participation qui permettent. Donc, voilà. Mon avis, c'est... Moi, j'aimerais bien qu'il aurait un apprentissage réel, réel, de décence. D'une part, on peut dire, d'incorporation de capital culturel et politique de la part des mouvements de base. Mais d'autre part... L'atmosphère de la plupart des partis que je connais est étouffante. Tout les moindres types d'esprit critique, ce sont des partis de professionnels. Donc voilà, je crois qu'il faut voir des formes organisationnelles nouvelles et que l'idée de l'efficacité, il faut la mettre en question. Efficacité pourquoi et sur quoi? L'efficacité pour faire un programme électoral peut être aussi l'efficacité pour transformer une organisation dans une petite chapelle de professionnels. Avec ça, tu es capable de monter les députés ou de contrôler les discours de ton parti. Mais je crois que ça aussi nous a amené à une catastrophe. Une dépolitisation massive, même dans l'université. Oui, oui, surtout.
Attends, les questions de... Les interventions, pas forcément des questions, on n'est pas justement dans du... Oui ? Non ? Non ? Personne ?
C'était tellement clair ou bien... C'est tellement brumeux que vous ne...
Il y a Bertrand, mais sinon il y a un autre lien aussi entre vos deux exposés. Ok, vas-y Bertrand. Non, mais parce que du coup je repense à la question du progrès social, effectivement, oui. Comment tu lis l'impossibilité de démocratie sans progrès social et de la même manière...
Moi je vois quand même un dénominateur commun de faiblesse, hein. Exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que les réseaux de jeunes, les syndicats, dans le cas égyptien, ne veulent pas entendre parler de devenir des membres de partis communistes parce qu'ils ont un souvenir d'une tradition qu'ils critiquent non sans de bonnes raisons. Comment rétablir un contact, plus qu'un contact, un échange profitable des deux côtés, ça c'est un défi énorme. Hein. Mais la même faiblesse, c'est-à-dire, je dirais, l'incapacité, le mot est peut-être un peu trop fort, mais la faible capacité de penser un projet alternatif, positif, c'est-à-dire qui sache intégrer d'une manière cohérente des revendications, des ambitions de transformation sociale. Pour moi, ça sera toujours dans une perspective socialiste, mais de progrès social et de démocratisation de la société, y compris les formes institutionnelles à inventer pour que cette démocratisation de la société ne soit pas simplement des slogans, mais devienne et dispose de canaux pour avancer effectivement dans la société. Ça, c'est, à mon avis, nous sommes, tout au moins dans le cas égyptien, très faibles encore sur ce plan. C'est-à-dire que ni les réseaux de jeunes, ni les syndicats, ni les partis communistes n'ont, n'ont développé cette capacité dans, à la hauteur du défi.
Vous avez déjà amorcé la discussion parce que les points de départ étaient un peu éloignés, moi j'ai trouvé, hein, dans vos analyses. Donc c'est très bien, mais j'allais vous inviter à aller plus loin dans le rapprochement de vos analyses, puisqu'on avait un côté très micro et un côté très, très macro de l'autre. Donc par exemple, sur l'Égypte, quelle est la composition sociale des publics manifestants? On a parlé des 15 millions. Demain soir, on verra la place Tahrir. Vous parliez de réseau de jeunes. Alors, qu'en est-il de la composition sociale? Réseau de jeunes, est-ce que c'est des mouvements organisés ou pas? Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des jeunes salariés? Est-ce que ce sont des chômeurs? Est-ce qu'il y avait une organisation préexistante ou pas? Et qu'en est-il des syndicats, par exemple? Est-ce que c'est des syndicats qui se sont renouvelés dans la période récente? Et qu'est-ce qu'ils organisent comme fraction de la population? Est-ce que c'est des ouvriers, des employés, des travailleurs de l'État, des paysans, etc. Et de quelle forme politique sont porteurs ces différentes fractions de classe? Et j'aurai une question complémentaire après, mais je voudrais quand même en poser une symétrique à José Luis sur l'état de la société espagnole et sur l'état de la structure politique espagnole. Qu'en est-il, ce qui est suggéré très très fortement, c'est que les partis politiques, voire les appareils syndicaux espagnols, sont totalement bureaucratisés et incapables de cristalliser en leur sein ou en leur périphérie ce type de contestation. Mais est-ce que c'est bien le cas? Qu'en est-il des divisions politiques de la gauche espagnole? Et qu'en est-il aussi du renouvellement éventuel qu'a provoqué le mouvement sur ce vieil appareil politique? Ma question supplémentaire, c'est sur les autres pays arabes, dans la mesure où j'ai bien entendu que l'impérialisme était toujours puissant, et je partage ce point de vue. Néanmoins, dans les manifestants qui, dès le départ, étaient quand même dans les rues en Libye et en Syrie, et qui étaient des manifestants, ou alors j'ai été complètement trompé par les médias, c'est pas impossible, mais il semblait bien, alors ces mouvements étaient-ils totalement minoritaires, il semblait bien qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre d'une revendication nouvelle, portée par des fractions nouvelles. Donc j'avais envie de vous entendre un peu sur ce côté-là, parce que sur la récupération et l'instrumentalisation internationale par le Qatar et l'Arabie Saoudite, je n'en doute pas, malgré tout, on a envie de s'accrocher à quelques prémices de quelque chose qui a pu se passer malgré tout, y compris dans ces pays-là.
Bien, je vais être relativement bref parce que d'abord mon collègue est interpellé également, mais également donné du temps à la salle. En ce qui concerne la composition sociale en Égypte, elle est complexe, mais elle est relativement claire. Dans ce sens qu'il y a, je ne saurais pas donner de chiffres, mais 3, 4, plus que 3, 7, 8 millions d'individus actifs qui représentent certainement la force politique essentielle dans le pays. Ce n'est pas tout le pays. Et c'est eux qui ont amorcé et conduit le mouvement. Jusqu'au moment où ce mouvement est passé, en ce qui concerne les manifestations, de 3 à 5 millions à 15 millions. À ce moment-là, c'est le pays tout entier. Et ça change de caractère dans la composition sociale. C'est-à-dire que la majorité quantitative devient forcément, c'est 60%, ça c'est les statistiques officielles égyptiennes, c'est 60% des Égyptiens qui survivent dans les activités de l'informel, grâce aux frères musulmans et à l'argent du Golfe. Bon, et ça change. Ça change le rapport entre la minorité active, mais ce n'est pas une petite minorité, ce n'est pas C'est une minorité qui est majeure dans la vie politique, hein, dans la transformation politique. Alors, c'est très complexe. Mais moi, j'appelle cette majorité, cette minorité forte la plus active, les éléments actifs de ce prolétariat généralisé, dont les autres représentent l'arrière-garde, on pourrait dire, les éléments passifs dans ce prolétariat généralisé. Et évidemment, l'habileté des forces réactionnaires, c'est de jouer sur ces éléments passifs et par conséquent de donner le poids principal à l'élection. Hein. Voilà, pour ce qui concerne. Maintenant, pour ce qui concerne les syndicats, dans le cas égyptien, sont des syndicats principalement ouvriers. Ils ne sont pas petits. Hein. À l'heure actuelle, ils ont mobilisé 5 millions de travailleurs de l'industrie, y compris les transports, les chemins de fer, etc. Il y a une grande partie de public, hein, mais il n'y a pas que du public. Et ils sont... il y avait une vieille tradition, enfin une tradition pas tellement vieille, une tradition de syndicats un peu courroie de transmission, comme on disait, qui a été captée par le régime nassérien dans une caricature de la forme soviétique, c'est-à-dire le syndicat contrôlé par l'État, mais réel, dans ce sens que c'était, dans le langage nassérien lui-même, hein, Markaskoa, c'est-à-dire un centre de pouvoir, un centre, pas le centre, hein, un centre parmi d'autres, c'est-à-dire négocié, comme avec les coopératives agricoles. C'était un régime autocratique, mais de négociation avec les différentes composantes de la société populaire, disons. Ces syndicats ont été, avec le libéralisme, annihilés dans leur capacité d'action et de plus en plus, grâce à leur bureaucratisation, corrompus. Mais les travailleurs ont réagi en réinventant des syndicats en dehors d'eux. C'est intéressant de savoir que les Frères musulmans sont à fond contre ces syndicats, hein, en demandant qu'ils soient interdits par la loi. Bien. Maintenant, pour les autres pays, attention de ne pas aller d'un extrême à l'autre. En ce qui concerne la Libye, il y a toujours eu des régionalismes, et entre autres, entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Et il y a toujours eu, par conséquent, des revendications, des tendances autonomistes en Cyrénaïque par rapport à un pouvoir qui était principalement tripolitain. Mais sans plus, qu'il y ait eu quelques manifestants de bonne foi, je n'aurais pas de difficulté à l'accepter. Pas grand monde. Pas grand monde. Et ce qui est caractéristique tout de même, c'est que sont apparus dès la première minute des gens armés, et en très petit nombre, tirant sur la police et l'armée. Bon. Et faisant appel le jour même à l'intervention extérieure. Bon, ça c'est... Nous avons eu quelque chose de plus complexe dans le cas syrien, parce qu'il est venu plus tard, et qu'il y avait eu l'amorce d'un mouvement effectivement populaire et démocratique de protestation. Mais il n'a même pas eu le temps d'avoir ses premières journées, je dirais, que à partir, et c'est intéressant, Homs, c'est à tout près de la frontière du nord du Liban, et Tripoli du Liban est devenu une base de contrôle du Golfe, à travers des soi-disant frères musulmans sunnites, en réalité des gens qui sont très liés, y compris à Al-Qaïda, qui est très amusant, c'est un allié. Hein. Al-Qaïda s'est déclaré favorable au mouvement en Syrie et à l'intervention étrangère. Assez amusant, hein, de voir. Bon. Alors, à la frontière nord, c'est très documenté par nos amis turcs, des camps d'entraînement par des officiers turcs. Hein. Alors que ces camps d'entraînement aient recruté sur place en Syrie, ce n'est pas impossible. Il y a pas mal de gens qui viennent d'ailleurs aussi, hein, y compris des talibans d'Afghanistan. Je crois que
Il y a eu sur ce plan une campagne. Ça, c'est un domaine dans lequel les médias ont véritablement menti d'une façon éhontée. On a donné des exemples. Al Jazeera a produit des soi-disant combats entre hommes armés contre l'armée de Kadhafi. La réalité, c'est que ce sont des soldats anglais et américains sur terre, pas dans les airs, qui ont combattu. Et puis on leur a demandé de se disparaître, de se ranger de côté. Et sont intervenus après des gens, des Libyens, habillés avec un fusil et poussant des cris. Il y a eu des falsifications systématiques. Et là, alors, vraiment, c'est les médias mensongers. Sur ce plan, nos amis belges, notamment, comment il s'appelle, Michel Collomb, a donné pas mal d'informations qui sont contrôlées et tout à fait exactes. Alors, méfions-nous. C'est ça qui a mis le mouvement syrien, le mouvement populaire réel, dans l'embarras. Et qui reste un mouvement qui n'est pas du tout, ce ne sont pas des agents de Bachar el-Assad ou des soutiens du régime, loin de là, loin de là. Ce sont souvent, pour pas mal d'entre eux, des communistes qui ont été des victimes et qui continuent à être des victimes de la répression. Mais ils n'ont voulu à aucun prix être confondus avec cette soi-disant armée de libération de la Syrie.
Oui, pour répondre vite, alors, la composition sociale des mouvements. Dans l'Assemblée où je suis, deux tiers, ce sont des classes moyennes, un tiers, classe populaire. Dans le reste de la ville, je crois que les composants des mouvements sont la plupart des classes populaires. Et parfois, des gens avec certaines expériences politiques et syndicales, qui ont fait des études, mais qui habitent dans des quartiers populaires, qui ont des métiers plus ou moins spécialisés, mais pas du tout des classes moyennes bourgeoises. Voilà mon avis. Et pour Cadix, c'était l'autre ville que j'ai connue un peu, et l'occupation d'un ancien bâtiment qui était vide par les mouvements a généré une sympathie énorme du quartier le plus populaire de la ville. C'était l'ancien quartier des pêcheurs, là où il y a toute la vie quotidienne du carnaval, que le carnaval c'est un symbole de la ville de Cadix. Donc si on voit les vidéos, on trouve, voilà, pour trouver des classes moyennes, c'est parfois un peu difficile. Et quand on les voit, bien sûr, ce sont des militants politiques. Donc je crois que la sympathie des classes populaires pour les mouvements est énorme. Par contre, le mépris parmi les classes cultivées est aussi très fort. Il faut que voir les articles signés par des intellectuels dans les médias espagnols. Le populisme, le totalitarisme, voilà, tous les schismes du monde sont offerts comme analyse du mouvement. Il faut l'interpréter, il faut enquêter encore plus. Mais voilà, je crois que l'image d'un mouvement petit bourgeois s'est trompée complètement. Ce sont des images qui on peut contredire très facilement en voyant des reportages sur des assemblées ou des manifs. Bien sûr, les représentants publics, et pas tous, aussi parce qu'il y a la rotation, sont parfois déjà, c'est-à-dire des professionnels. Bien sûr, il y a certaines commissions, par exemple la commission de communication, vous allez deviner trop vite, la plupart des gens, ce sont des journalistes. Et personne ne se mêle, quoi. C'est évident. Pour les votes politiques, si je ne me trompe pas, les jeunes de 18 à 24 ans, c'est-à-dire les gens qui ont voté la première fois dans les dernières élections, ils ont voté à droite. Très majoritairement. Les ouvriers non qualifiés votent à droite. Les ouvriers qualifiés votent à gauche. Une bonne partie des classes moyennes votent à gauche. Voilà le panorama politique et plus ou moins ça. C'est-à-dire, il y a un vote des classes assez stable, parce que c'est la même logique du vote après l'arrivée de la démocratie, si je ne me trompe pas, et avec des fractions qu'on ne s'attendait pas, les sobriers non qualifiés, pourquoi ils votent à droite. Et les changements, ce sont les jeunes. Pourquoi les jeunes votent à droite? Voilà, ça, je ne sais pas. Donc, niveau d'âge, au niveau d'âge dans les mouvements, entre 30 et 60 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas de gens trop jeunes. C'est-à-dire, au début du mouvement, il avait l'arrivée des gens très jeunes. Mais après, ils ont disparu. Il restait quelques-uns, mais trop peu. Mais il est plus proche, nous sommes plus proches de la quarantaine, c'est-à-dire 43, c'est, je crois que c'est plus ou moins la moyenne. Les moyens. Donc voilà, pour les syndicats et les partis, il y a un travail énorme de discrédit symbolique contre les syndicats de la part de la droite. Ce travail est repris, parfois avec raison, et parfois avec beaucoup d'opportunisme, plus de raison que d'opportunisme, mais opportunisme quand même, pour une culture anarcho-syndicaliste qui était toujours très forte en Espagne. Et par une culture libertaire qui est très forte. Hier, on a signé la défunction de l'État social en Espagne, avec les mesures d'économisation de 10 000 millions d'euros en plus de la part du gouvernement. Aujourd'hui, on a instauré un État pénal énorme, avec des mesures type si tu fais un appel à manif en Internet, ça c'est un délit susceptible de ça c'est susceptible de terminer à prison. Donc les formes de résistance non violente sont des attentats à l'autorité, donc prison. Donc aujourd'hui, on a une grève générale qui était très inégale, c'est une grève ouvrière, pas du tout dans le secteur du commerce. Mais ce sont les manifs les plus grands que j'ai vus en Espagne. Donc, je connais beaucoup de gens qui sont allés à travailler et après, ils sont allés aux manifs. Aujourd'hui, les droits de grève, c'est quelque chose de possible pour les grands aussi, où il y a des syndicats très forts, et pour les fonctionnaires. Pour le reste, tu es mis à la porte les jours suivants. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Mais il y a des espoirs. Les élections en Andalousie ont annoncé une victoire massive de la droite. Moi, j'entendais les discussions à la cafétéria de l'université, je me disais que ça va être encore plus dur. Et un ami qui travaillait dans une boutique de parfumerie, Sephora, m'a dit, non, fais gaffe, dans ma boutique, tous les gens vont voter à gauche. La gauche a gagné. Mais c'est-à-dire, c'est un vote clandestin. C'est-à-dire, dans les sondages, il n'apparaissait pas. C'est un peu comme on disait sur le vote Front National en France. Donc, le vote clandestin, c'est la gauche en Andalousie. Mais ça, c'est-à-dire, pas l'addition des partis socialistes et la gauche unie, est longuement majoritaire sur les partis populaires. Donc voilà quelle est la situation. Je crois qu'il faut trouver des liens évidents, je me bats pour ça, entre les syndicats et les mouvements. Moi, je suis même membre d'un syndicat. Mais c'est vrai aussi que parfois, la culture politique des organisations laisse très perplexe.
Il nous reste le temps d'au moins une question.
Alors, moi justement, ma question apporte sur les organisations. Dans votre intervention, j'avais bien aimé la partie sur la critique du parti, avec notamment l'aspect de reproduction de ce qui se fait dans la société, de normes reproduites, comme par exemple le capital symbolique qui augmente lorsqu'on agit par petits groupes, au fur et à mesure, il y a de la concurrence qui peut se créer, enfin, des trucs comme ça, c'est vraiment super bien de le dire, parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est pervers. Et de le nommer comme ça, ça évite pour les luttes prochaines de tomber dans ces erreurs. Ouais, donc là, il faut avoir une forme organisationnelle nouvelle, je le pense vraiment, si on veut qu'il y ait quelque chose qui change, parce que le nerf de la guerre, dans tout ce qu'on parle, c'est, là aussi vous l'avez dit, l'oppression, voilà, des gens qui ne sont pas bien, qui sont malheureux, on veut que ça change, et comment on fait? Et ça pose la question de la stratégie. Parce que, tout simplement, avec ce qui se passe en Grèce, en Espagne, là vous l'avez soulevé, il n'y a jamais eu autant de personnes, il y a eu quelques jours dans les rues, donc contre une contre-réforme sur le droit du travail. Et on a l'impression que malgré quelques concessions des pouvoirs au Maghreb et ailleurs, que je ne sous-estime pas, enfin, tant mieux, malgré ça, il y a quand même une difficulté pour un changement plus large. Hein. Enfin, peut-être que c'est un peu naïf ce que je dis, mais j'imagine quand même qu'il soit possible d'avoir une arrivée plus cohérente, que finalement ce contre-pouvoir il puisse gagner et pas uniquement récupérer des miettes, même si en entendant c'est bien et ça peut toujours faire plaisir avec tout ce qui se passe partout et avec voilà, cette crise et puis ces scores du Front National qui nous désenchantent, etc. Donc ça peut remonter le moral de voir qu'on arrive à récupérer quelque chose ou à résister. Mais ce qui serait encore plus chouette, c'est qu'on puisse avoir une organisation, une stratégie, pour qu'on puisse passer à l'offensive. Et bon, je reconnais que c'est pas évident. Et moi, je pense quand même, pour reprendre là aussi dans quelques arguments que vous avez donnés, que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on essaye de faire le nécessaire pour que ceux qui s'engagent, donc en théorie, enfin bon, c'est comme ça que je le vois, si on veut que ça change, il faut que ce soit des gens qui ne sont pas habitués à faire de la politique, qui viennent, donc qu'on passe cette légitimité pour plein de choses, dans le langage, la manière de s'habiller, etc. Qu'on puisse leur donner les moyens de s'épanouir, de s'exprimer. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui est assez pervers, c'est qu'il y a des organisations d'extrême gauche qui peuvent critiquer à juste titre la professionnalisation de la politique, et c'est très bien, mais d'un autre côté, on a peut-être un peu l'impression, bon après c'est difficile de leur jeter la pierre, parce que c'est vrai que les citoyens, par exemple à Poitiers, ils viennent pas forcément facilement dans des lieux comme ça, et c'est pas des faux, enfin des tracts sont distribués, il y a des manifs, ils peuvent eux-mêmes se prendre en main, mais peut-être qu'il y a une sorte de monopole sur la réflexion et sur l'action par toujours les mêmes personnes, et il faut vraiment casser ce rouage, quoi, sinon on s'en sort pas, et dès qu'il y a des nouvelles têtes, donc c'est une irrégularité par rapport à la réflexion posée, parce qu'on n'a pas les mêmes bases, les mêmes trucs, et souvent ça clash, et ça devrait pas clasher, parce que c'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller. Et donc peut-être, donc là c'est juste une suggestion, essayer de... Alors déjà, je crois que c'est pas forcément le bon truc de tout remettre à zéro. Quand on veut du nouveau, il faut à mon avis quand même récupérer une analyse qui est faite, et il y a du travail qui est fait intellectuel là-dessus, c'est vraiment intéressant, la critique du capitalisme, le problème écologique, des choses comme ça, récupérer ça, partager ces débats, mais essayer de voir comment on s'organise, et peut-être en collectif, enfin, là vraiment c'est peut-être plus concret, je trouve. Dans les collectifs, les débats sont moins chiants. Voilà, enfin, on a l'impression que ça nous concerne plus directement, mais ensuite qu'on puisse trouver un moyen finalement de faire converger ces luttes pour ne pas tomber dans, parce que là pour le coup ça peut être assez récupéré aussi, dans un éclatement d'une lutte sans lendemain, où là on sera uniquement dans une résistance qui ne voit pas plus loin, quoi, et ça, c'est pas trop mon truc, ça.
Bon, juste je suis d'accord, je voudrais souligner seulement des choses. C'est important, je crois que ce qui est important dans les mouvements du 15 mai, c'est la pluralité sociale. Et ça dépend, on peut dire, de son aspect interclassiste, de que c'est pas un mouvement de petits collectifs déjà formés. Les petits collectifs déjà formés ont joué un rôle à leur avis positif, mais à mon avis négatif. C'est de tenter de transformer les mouvements dans le cadre de ces programmes, de les programmes respectifs. Donc, ce qui est important dans les mouvements, ce n'est pas la coordination de lutte. C'est une expérience politique partagée par des gens dans des liens communs et qui fait naître une culture modeste, mais différente du point de vue politique. Il ne faut pas se déguiser. Il faut être la question, c'est-à-dire, il ne faut pas faire du populisme, il ne faut pas s'imaginer aller voir les peuples. Il faut, je crois que la seule solution, c'est que chacun reste soi-même, mais qu'il se dise que ça vaut la peine d'écouter les voisins et de les laisser parler. Ça semble très modeste, mais ce qui a donné la force au mouvement et la sympathie. Et une chose très importante, c'est la permanence. C'est-à-dire rester. Ça donne beaucoup de, beaucoup de force collective. Ça vaut pas la peine de faire des discours flamboyants un jour. Un beau programme le jour suivant et après disparaître. Ça, c'est identifié dans le cadre des perceptions des gens comme un type qui tentait de faire de la politique, de devenir un homme politique à partir du mouvement. Donc voilà, c'est un peu mon avis. Je crois qu'il y a une idée très importante du point de vue de la démocratie qui a été exprimée par un Américain, par Jefferson. C'est l'idée. Une république est plus grande à fur et à mesure qu'il y a plus d'assemblées populaires. Une république est plus petite et plus oligarchique au fur et à mesure qu'il y a moins de gens en participant dans la vie publique. Et il y a une chose très importante, qu'on peut expérimenter quand on est confronté à des assemblées vraiment populaires. C'est le plaisir d'être ensemble. Voilà, on peut faire les Durkheimer, mais c'est des consommations rituelles, bien sûr. Mais c'est ça qui permet d'être mobilisé, c'est ça qui permet de tenir la croyance. Alors, pour les résultats, je dirais, c'est un combat très long. Moi, avant le 15 mai, mon premier souci, c'était ma famille, mon dernier souci, c'était publier dans des revues à comité de lecture. Et présent dans le journal Citation Report. Voilà, c'était moi. Moi, j'étais militant avant. Je suis parti d'un courant sociologique de gauche au pros, etc. Donc, il avait un niveau de dépolitisation et de concentration sur la vie privée et sur les stratégies personnelles si grand qu'on ne va pas les changer dans moi. Donc, il faut être patient. C'est mon avis.
Mais quand même, par rapport à la question de Maxime, c'est pas contradictoire le fait non. d'inventer des formes nouvelles non. ou de se poser dans la durée ou de pas remettre les compteurs à zéro, mais penser l'inventivité n'est pas contradictoire avec le fait de penser une stratégie pour un deuxième moment, pour un horizon qui soit pas juste. On tient. Moi, je sais que les indignés à la Défense à Paris. J'ai eu beaucoup de mal à discuter avec eux parce qu'eux, ils remettaient les compteurs totalement à zéro. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de... Et j'ai trouvé ça assez difficile de discuter parce que il y avait, je trouvais très enthousiasmant les formes nouvelles d'investissement de l'espace public, de maintien, effectivement, de tenir le coup, etc. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas une stratégie derrière, une offensive derrière, quelque chose qui permet de voir un après.
Mais la seule manière d'avoir une stratégie, c'est d'être présente.
Oui, mais il faut un peu plus que ça.
Non, il faut...
J'apprécie tout ce que tu as dit et je ne vois aucun désaccord. Mais je crois qu'il faut être un peu plus exigeant à l'égard de nous-mêmes et du mouvement, disons. Bon, il lui faut parvenir, dans un délai raisonnable, à avoir des objectifs stratégiques communs qui puissent effectivement mettre sur la route des victoires, même des victoires modestes, mais de premières victoires. Il lui faut cela. Moi, je pense que nous sommes à l'échelle mondiale dans un moment, j'emploie le terme révolutionnaire, hein, non pas en entendant par là la révolution qui résout tous les problèmes en 24 heures, un moment historique révolutionnaire. C'est-à-dire ou bien la gauche potentiellement radicale se radicalise réellement et propose et trouve les moyens alors d'organisation. Et ça, c'est tous les problèmes que vous avez posés. Hein. Mais propose, j'ai utilisé la formule de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Comme vous le savez, elle n'est pas de moi, mais je crois qu'elle convient parfaitement à notre moment historique. C'est-à-dire que la construction, appelons-la d'un front, parce que bon, on n'a pas toujours d'une large alliance anti-monopole et anti-comprador pour ce qui est des pays du Sud, mais anti-monopole d'une manière générale, est véritablement le défi. Alors, est-ce que le mouvement ou les mouvements parviendront à découvrir à travers leur lutte les moyens, les formes d'organisation permettant d'avancer dans cette direction ou non? Bon, je crois que ça se passera comme toujours dans l'histoire, avec plus ou moins de succès ici, et plus de succès ici et moins de succès là. C'est un défi et il ne suffit pas de. On ne va pas trouver les formes d'organisation in abstracto, ni les formes d'action in abstracto. C'est dans leur association. Les formes d'action et les formes d'organisation sont indissociables les unes des autres. Et c'est à travers donc les actions, les luttes, que éventuellement il y aura des progrès dans l'invention de formes d'organisation appropriées.
Complément d'accord, sauf à ajouter et la discussion collective. Pas la convocation des manifs.
Pour moi, ça va de soi. Mais enfin,
et la discussion collective. Et la lutte pour l'hégémonie dans la société civile, comme disaient les classiques. Et ça suppose d'aller voir les vendeurs des journaux du coin et de les demander mais pourquoi tu ne fais pas, tu qui es si bonne personne, la greffe. On va discuter avec toi. Voilà. D'accord en tout, mais la discussion collective aussi. Et permanent. C'est la seule forme de la lutte contre la hégémonie idéologique néolibérale.
Je crois qu'on doit s'arrêter là pour des raisons de clôture de l'EMF. Merci à tous d'être venus. Je vous rappelle que le festival ne fait que commencer. Demain et après-demain, deux journées entières de débats, de projections de films, de conférences. Vous avez des programmes là-haut pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Et samedi matin, en guise de clôture, des lectures de poésie sur la place du marché Notre-Dame. Donc venez nombreux en allant faire votre marché entre 11h et midi. Merci beaucoup, bonne soirée.